Fabrice eut besoin de 2 heures pour souffler avant de se lancer dans l'épisode des glaces devant un public où les ados Orosco Reference et les jeunes adultes, ceux qui y suivaient étaient plus de leur âge, dominaient. Comme par la voix de France Gall, un siècle après Albertine, il s'agissait de célébrer un mai. Les sucettes à l'Annie, d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge, parfumé à l'Annie, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Pour quelques pénis, Annie a ses sucettes à l'Annie, chantait la jeune fille, qui, avoua-t-elle plus tard, ne saisissait pas l'ambiguïté des paroles de Gainsbourg. Des obélisques de framboises qui se dresseront de place en place dans le désert brûlant de ma soif et dont je ferai fondre le granit rose au fond de ma gorge, qu'elles désaltéreront mieux que des oasis. Se délecte Albertine, sans doute moins ingénue. Retour sur la jalousie du héros et sur la confiance qu'il met en son chauffeur qui conduit Albertine dans ses sorties, un si brave homme, pour mieux espionner ses faits et gestes. Le soir, TF1 tint sa promesse avec un prime time en direct présenté par Jean-Claude Narcy et Laurence Ferrari, mais pas pour retransmettre une séance. Il ne fallait pas trop en demander à une chaîne qui veut gagner des millions. La chaîne privée savait qu'elle prenait un risque. Quelques années auparavant, France 2 n'avait pas dépassé 12% puis 10% d'audience avec le téléfilm en 2 parties de Nina Companese consacré à la recherche. Soit tout de même 3 200 000 téléspectateurs le premier soir. À Londres, The Times s'était alors moqué des 4 heures online. Un roman d'1,5 million de mots qui peut facilement se résumer ainsi, c'est l'histoire d'un insomniaque hypersensible et asthmatique qui ne se souvient de rien jusqu'à ce qu'il plonge une madeleine dans une tasse de thé. Mais ce soir-là, les vedettes de la chaîne s'étaient déplacées en nombre. Jusque y compris Benjamin Castaldi, qui ne put s'empêcher de regretter que Marcel Proust ne fût plus de ce monde. Il aurait été un hallucinant participant de Secret Story, plus préparé que quiconque, avec son goût des chambres closes. La une joua sur les témoignages de Pipol rameutés aux Champs-Élysées. Ainsi, Patrick Bruel, Clara Morgan et Katsumi confièrent ce qu'il devait à Proust. Le premier, la profondeur de sa judéité nourrie par l'affaire Dreyfus, omniprésente dans la recherche. Et les 2 stars du porno, leur goût de gouine, selon leur élégante expression. Le duo Ferrari-Narcy tout sauta. La direction de la chaîne tout ça. Les téléspectateurs tout saillèrent. Mais la soirée, magnifié par une réalisation toute de paillettes et d'éclairages clinquants, porta ses fruits. Plus de 5 300 000 Français sous l'emprise de Proust. Avec cette victoire des audiences, les patrons de la télé ne songeaient plus à se racler la gorge. En prime, un jeu permettait de gagner un smartphone, vraiment smart. L'Ulysse Nardin Sherman dans des finitions rose, or, bleu, noir et acier. Question. Dans les romans de Proust, un gâteau porte un prénom féminin. Lucette, tapez 1. Alexandra, tapez 2. Madeleine, tapez 3. À l'avalanche de SMS fit tomber quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires dans l'escarcelle de TF1. Rebaptisé dans les couloirs, sur le modèle de télé-réalité, téléprojeté. Tous émoustillés par l'aventure dont ils rendaient compte avec avidité, les médias commençaient à s'impatienter sur le choix du lieu des festivités finales. L'entourage de Fabrice jouait les cachotiers et refusait de confirmer le choix pourtant déjà tranché. Ce mystère conduisit à l'élaboration d'hypothèses qui penchaient pour Euro Disney, qui pour la Sorbonne, qui pour le Parc des Princes, encore, qui pour la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Le jeudi matin, sans être clairsemé, le public n'emplissait pas la salle. La prisonnière n'est pas, en convainc Fabrice, le plus rock'n'roll. C'était son mot amusé, des romans du cher Marcel. Le récit ne faiblit pas pour autant, et l'on vogua sur les sentiments du héros à l'égard d'Albertine, de la femme, des femmes, sans oublier lesbiennes et prostituées. Et puis, c'est la mort de Bergotte. Mille fois commenté, ce morceau de bravoure vaut par les circonstances du décès de l'écrivain. Bergotte apprend par le journal que le tableau « La vue de Delphes » de Vermeer est à Paris, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise. Cette œuvre, il l'adore et croit la connaître très bien. Mais le critique qui l'évoque signale un petit pan de mur jaune d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte, qui ne se le rappelle pas, mange quelques pommes de terre et va à l'exposition. Il y est pris d'étourdissement d'entrée et remarque effectivement ce détail, tandis que ses étourdissements augmentent. Il a le temps de se dire que ses livres auraient dû être écrits comme le tableau a été peint. Trois pensées lui viennent alors. D'abord, je ne voudrais pas être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Ensuite, petit pan de mur jaune avec un auvent. Petit pan de mur jaune. Enfin, s'abattant sur un canapé. C'est une simple indigestion, comment donner ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. Proust ajoute, un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais. Qui peut le dire? À cette existentielle question, proustienne en diable, s'ajoutait un mystère. Dans le tableau, où est ce pan? Trois espaces peuvent prétendre le représenter, un en haut, à gauche, et les deux autres superposés, à droite. Painter, Meyers, Pavan, Willock, Renzi, Parker, Taddeï, tous les spécialistes s'y étaient penchés. Et chaque emplacement avait ses partisans.